Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Au XXe siècle, des nouvelles vagues et des printemps, la Tchécoslovaquie et son cinéma en ont connu plusieurs. L'occupation nazie, le coup de Prague de 1948 et les chars soviétiques d'août 1968 se sont chargés d'y mettre fin. De l'année 68, ici ou là, les mémoires ne sont pas imprimées des mêmes souvenirs. Le mai parisien fut une explosion de lyrisme révolutionnaire. Le printemps de Prague, c'était l'explosion du scepticisme post-révolutionnaire, écrivait Milan Kundera en 1978. C'est pour cela, disait l'auteur de la plaisanterie, que l'étudiant parisien regardait vers Prague avec méfiance, ou plutôt avec indifférence, et que le Pragois n'avait qu'un sourire pour les illusions parisiennes qu'il considérait, à tort ou à raison, comme discréditées, comiques ou dangereuses. En 1998, sur France Culture, dans Ciné Club, Patrick Casals racontait ce qu'avaient été les printemps du cinéma en Tchécoslovaquie, en particulier celui qu'achevèrent les troupes du pacte de Varsovie le 21 août 1968.
Ciné-club. Les printemps du cinéma tchèque. Patrick Casals, Marie-Ange Garandeau. Regardez, ne pas juger, trouver dans la vie des héros ordinaires et nous faire partager leur solitude du quotidien, en la pimentant d'humour. Ce dialogue direct et chaleureux, noué avec le public, permis voici 30 ans, au cinéma tchécoslovaque, de prendre le relais de la nouvelle vague française et de s'affirmer comme l'un des plus novateurs de la planète cinéma. Narguer la censure totalitaire était devenu pour les cinéastes tchèques un jeu de marelle. Les titres de leurs films étaient autant de mots de passe pour cinéphiles. Du courage pour chaque jour, un jour un chat, éclairage intime, l'as de pique, train étroitement surveillé. Cet âge d'or, ébauché au printemps 1962, s'achève le 23 août 1968, lorsque les chars du pacte de Varsovie entrent en briseurs de rêves dans les rues de Prague. L'histoire du cinéma tchèque est faite de ces soudaines embellies et de longues parenthèses grises, mais toujours ironiques. Un fragile équilibre entre des eaux fortes héritées de Franz Kafka et une franchise naïve à l'écoute du brave soldat Švek.
Čokoládová. Mámo, prosím tě, pojď sem, tady byla taková čokoládová koule.
Jean-Louis Manceau.
Pour moi, le cinéma tchèque, c'était un des cinémas les plus riches en Europe dès le début de l'histoire du cinéma. Disons que le cinéma tchèque a démarré réellement au niveau industriel et développement commercial en 1912-1913, même s'il y avait eu quelques films de tournée auparavant. Mais dans les années 30, à la fin du muet et au début du parlant, le cinéma tchèque est un des cinémas les plus importants en Europe. Il y a le cinéma allemand avec l'expressionnisme, il y a le cinéma français avec ce qui va devenir le réalisme poétique, et il y a un cinéma qui est à peu près de même nature ici, mais qui subit en même temps une forte influence du jeune cinéma soviétique, qui subit l'influence du cinéma expressionniste allemand, qui en plus développe un humour particulier, car ce sera... Toute la période des années 30 est une période de comédie assez intéressante ici.
Au début du siècle, en Bohème, à Prague, il y avait déjà des productions du cinéma muet, mais il y avait une autre chose aussi. Il y avait aussi les premiers théoriciens du cinéma.
Antonin Lim.
Et ça a continué pratiquement jusqu'à dans la fin de l'Empire autrichien. C'était relativement timide. Mais même après la Nouvelle République tchécoslovaque, jusqu'à la fin du muet. Pourquoi ? Parce que du temps du muet, vous aviez une axe de production qui allait de Vienne par Prague jusqu'à Berlin. Vous avez Mahaty, par exemple, qui a fait Extase, Eroticon, etc. Il travaillait avec Eddie Kisler, Junghans, qui était berlinois, travaillait à Prague. On mélangeait des acteurs tchèques, autrichiens, allemands, et ça marchait très bien. Le cinéma sonore a mis fin à cette période, période relativement productive, mais quand même, l'histoire du cinéma tchèque commence à la fin du dernier siècle, ça c'est vrai.
Il y avait aussi ces films d'art de l'architecte Max Urban, non ?
Ah oui, il y avait ça, même les premiers, les débuts d'animation, il y avait tout, il y avait... Mais c'était naturellement relativement modeste, mais quand même comme référence et comme racine, comme source, cette culture visuelle, si vous voulez, existait et s'est révélée finalement dans l'avenir extrêmement importante.
Un mythe veut que le cinéma tchèque soit érotique. Malheureusement, les gens qui croient à ce mythe n'ont pas vu de films tchèques. Ceux-ci sont, il faut le reconnaître, souvent très réalistes dans leurs séquences sexuelles, mais cela ne va guère plus loin que les romans populistes. Par son côté fille-mère, rédemption des putains et déchéance des fermières terminant leur vie dans les cabarets des grandes villes, ce cinéma rappelle le cinéma scandinave sans tomber toutefois dans le mysticisme, mais sans en avoir non plus les qualités techniques. Le grand spécialiste de l'érotisme tchèque est Gustav Mahaty. Son meilleur film reste Eroticon, Séduction 1928. Grâce à la première scène, celle de la séduction de la fille du garde-barrière. Par contre, je n'ai jamais compris le succès de Extase, 1932, du même Mahaty. Évidemment, Eddie Kiesler, qui devint Eddie Lamar, est scandaleusement belle et son anatomie très chaste est agréable à regarder. C'est là que réside le seul intérêt de ce film, très superficiellement érotique, bourgeois et ennuyeux. Ceux qui l'admirent l'analysent dans les ciné-clubs, y cherchent les symboles freudiens comme s'ils ne crevaient pas les yeux, se pâment devant la scène d'amour où s'accumulent tous les poncifs du genre, feraient bien d'aller voir ou revoir la partie de campagne. Ado Kirou.
Et on peut remarquer par exemple qu'au Festival de Venise, au deuxième Festival de Venise en 1934, quatre films tchèques raflent plus de la moitié des prix, ce qui est quand même assez surprenant. Alors les quatre films ont des aspects complètement différents les uns des autres. Il y a Extase de Mahaty, qui est un film donc avec un côté romantique érotique. Il y a un film de Rovansky, qui est un film qui se déroule dans la campagne, qui est une exaltation un peu du plaisir, des plaisirs de la vie naturelle. Il y a un film qui s'appelle La vie chante de Karel Plitzka, qui est un documentaire ethnologique sur la Slovaquie. Puis le quatrième, je ne me souviens plus ce que c'est. Mais disons qu'il y a un cinéma qui s'affirme internationalement d'une façon très forte. Et d'ailleurs, jusqu'en 1938, à Venise, à chaque festival, qui est à ce moment-là une biennale, les Tchèques raflent systématiquement des prix. Pas autant que lors du deuxième festival, mais assez régulièrement. Ensuite, à partir de 1938, ils ne participeront plus, puisque à partir de 1939, ça devient une manifestation germano-italienne. Quoi.
L'actrice tchèque Eddie Lamar conquiert, en s'ébattant nue dans une campagne verdoyante et dans les eaux d'un torrent, une réputation mondiale qui lui permet d'accéder à l'Olympe hollywoodien. La scène nudiste d'Extase sera, en vertu du code Hays, gommée des copies projetées aux USA, en attendant que le mari de la comédienne, un homme d'affaires plutôt jaloux, ne pratique sa propre censure en rachetant personnellement toutes les copies disponibles du film. La censure américaine s'est même attaquée au titre du film. Extase devint « My Ecstasy ». Pour bien préciser, sans doute, que l'extase atteinte par l'héroïne était tout à fait exceptionnelle et ne saurait concerner toutes les femmes américaines.
Alors, les films qui, ensuite, ont marqué un petit peu le cinéma tchèque, qui lui ont valu aussi quelques lettres de noblesse sur le plan international, des films comme « Telle est la vie » ou « La vie à 18 ans », ce sont des films qui ont marqué quelle nouvelle étape dans l'esthétique et dans la créativité tchèque?
Alors, il faut pas confondre. « Telle est la vie » est un film qui est fait par un Berlinois, au confins de la période sonore muette, qui est faite à Prague avec les frères tchèques, mais qui est un film fait par un représentant important de la Neue Sachlichkeit à Berlin, du réalisme allemand du début des années 30. La vie à 18 ans, ça c'est autre chose. C'est la fin des années 30, c'est un film tchèque, écrit par un grand écrivain tchèque, Vladislav Vančura, etc. Vous savez, quand le sonore a tué cette coexistence, cette symbiose entre Vienne, Prague, Berlin.
A coupé l'axe.
A coupé l'axe, si vous voulez. Alors, il fallait faire du cinéma tchèque. Et le cinéma tchèque, finalement, a été surtout ancré dans une grande maison de production, qui était la maison de production de Lucerna Film, dont le propriétaire était l'oncle du président Havel de Tchécoslovaquie aujourd'hui, et qui a construit aussi les grands studios de Barrandov à Prague, donc a créé, si vous voulez, une vraie base industrielle pour le cinéma tchèque, par rapport au cinéma hongrois, polonais et les autres cinémas des pays de l'Est, dont l'origine, pour la plupart, est seulement dans la période communiste, parce que ça n'existait pas vraiment avant. Donc là, il y avait une base industrielle. Et finalement, grâce à tous ces efforts et aussi grâce à l'intérêt des écrivains tchèques, des hommes de théâtre tchèques et bien sûr de cinéastes, le cinéma tchèque commençait à exister. Et c'est en 1937 ou 38 où tout était prêt pour que le cinéma tchèque puisse entrer, si vous voulez, sur la scène européenne en tant qu'un important cinéma national. Le signal était surtout le film de Otakar Vavra, La Vierge de Kutná Hora, un film sur une histoire de renaissance tchèque, qui a eu un lion à Venise. Et c'est là que le cinéma tchèque, il y en avait deux ou trois autres films, la Rivière de Rovensky, etc., qui signalait que là, il y a un cinéma mûr. Malheureusement, c'est arrivé en 37-38. Et au moment où ce cinéma tchèque devenait adulte, c'était Munich, l'occupation allemande. Fin.
En ce qui concerne les drames et les comédies dramatiques, il y a une très évidente parenté et en même temps un enracinement social assez évident. Quand on voit, par exemple, ce qui se déroule avec Extase, on peut le retrouver dans certains films de 1947-1948. Et on va le retrouver aussi dans les films de la première nouvelle vague de 1956, notamment avec des films de Caquinha. Et puis on le retrouvera bien sûr avec la deuxième nouvelle vague dans les années 64, 65, 66. Et il n'y a pas un éloignement très grand entre ce type de cinéma-là. C'est toujours, d'ailleurs souvent, une description où une personne ou un groupe de personnes est victime de la pression sociale et de l'environnement, mais en même temps a des désirs extrêmement forts. Alors, ça peut se traiter sur le plan érotique, ça peut se traiter sur le plan social. Et donc, on arrive finalement à avoir des choses qui se renvoient, qui se rappellent, qui sont des échos les uns des autres. Et c'est vrai aussi que, puisqu'on évoquait tout à l'heure la comédie et l'humour, et que je dis que le seul successeur, c'est Menzel, c'est que quand j'avais proposé à Menzel de faire à Saint-Denis une carte blanche où il ferait, à la fois, il montrerait les films dans lesquels il a joué, puisqu'il est comédien, les films qu'il avait réalisés, et puis il m'a dit, mais moi je veux aussi autre chose. Je veux que tu montres des films des années 30 et je vais te faire une liste et tu montreras ces films-là parce que c'est là que naît mon inspiration et c'est à eux que je veux rendre hommage et que mes films sont des échos directs. Et c'est vrai que quand on regarde bien, on s'aperçoit de cette parenté-là. Mais c'est de même nature, on pourrait dire. Il s'est déroulé un événement en France qui était le cinéma de la résistance, enfin de l'occupation, entre 1939 et 1944. Alors on a dit pique-pendre sur certains des films, mais il y avait aussi des films de résistance avec des codes. Eh bien ici, en République tchèque, il y avait à Prague, au studio de Barrandov notamment, il y avait un cinéma de résistance de la même nature. Et c'est pas un hasard si, pour montrer la résistance, on utilisait des thèmes historiques, par exemple la Confédération des Dames de Katowice. C'était un film où les femmes étaient l'organe de résistance à l'invasion autrichienne, à l'occupation autrichienne au XVIe siècle. Mais en fait, on pouvait tout de suite faire la parenté, je veux dire, avec la période nazie, quoi. Et on peut reprendre des tas de films comme ça, de même nature, à la même époque. Alors, donc, pour revenir donc ensuite à l'époque de l'occupation quoi, soviétique, et notamment dans la période 68-90, il est vrai que le cinéma aussi a utilisé souvent des aspects historiques pour montrer et pour rappeler la situation présente.
Très bons films, les bons films de la période 36-38 étaient plutôt des exceptions. Le cinéma était très provincial, très populiste, tout ce que vous voulez. Pendant l'occupation, les cinéastes et producteurs tchèques, de tous bords, de gauche, pas de gauche, tout ce que vous voulez, se réunissaient dans un comité clandestin et ont préparé un projet de nationalisation du cinéma tchèque avec l'idée suivante. Ce n'était pas du tout une copie du système soviétique. On avait dit, le théâtre bohème, selon la tradition d'Europe centrale, le meilleur théâtre, le théâtre de répertoire, etc., est subventionné par l'État. Et les meilleures choses se passent dans les théâtres d'État ou avec l'argent de l'État. Il faut que le cinéma devienne une culture, que le cinéma devienne art, et ça dans un petit pays, parlant une langue que personne ne parle, d'autre que les citoyens du pays, même pas, alors il faut que ce soit un cinéma où l'argent public va prendre soin de cette culture cinématographique. Et c'est comme ça que pendant l'occupation, le projet de la nationalisation était complètement prêt. Le cinéma tchèque donc est nationalisé officiellement en 1946 et cette nationalisation commence à porter les premiers fruits en 1947-1948. Et en 1948, un film tchèque, Sirena, qui est signé Karel Stekli, mais Karel Stekli était seulement, je dirais, l'artisan qui a concocté ce film. Mais il y avait un grand caméraman, un grand musicien, etc. C'était un film à la création duquel a participé une grande partie de l'avant-garde tchèque artistique. Et donc on se disait, voilà la preuve qu'un cinéma nationalisé dans un petit pays peut fonctionner complètement différemment que par exemple le cinéma à ce moment-là à Moscou.
Mais les thèmes, quels étaient les thèmes des films donc produits par ces réalisateurs? C'était un attachement à la nation, à un certain folklore, à une image?
Il y avait par exemple, alors Sirène était, c'était naturellement un grand roman social d'une écrivaine tchèque, Maria Majerova. Mais il y avait un autre meilleur film, c'était La conscience de Jiří Krejčí, qui était un film sur l'adultère, qui n'avait rien à voir avec un mélodrame, si vous voulez, mais un très bon film, d'ailleurs, dans le contexte de l'époque. Non, à cette époque-là, vous aviez naturellement les films sur la résistance, sur la guerre, tout coexistait. Le problème était qu'en 1948, quand le Parti communiste a pris le pouvoir, alors naturellement, c'était ce sens que le cinéaste tchèque essayait de donner à la nationalisation et les raisons pourquoi il la demandait. Et je vous dis, de gauche à droite, c'était pas le cinéma était nationalisé avant la nationalisation de l'industrie tchèque et de l'économie tchèque. C'était fait avant pour d'autres raisons. Et donc, après 1948, le cinéma nationalisé devait jouer le rôle qu'il jouait en Union soviétique stalinienne, c'est-à-dire une arme de propagande d'État, un porte-parole de l'idéologie d'État et aussi de l'esthétique imposée, c'est-à-dire de ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Et ça a duré quelques, on pourrait dire, 6-7 années, jusqu'à la deuxième moitié des années 50.
The first timid steps of actual film production were not made until the early 1910s. In 1912, Joseph Schwab Malostranski wrote and shot a short situation comedy entitled The Five Senses.
Des studios de Prague à ceux de Zlin, financés par Bata, roi de la chaussure et mécène, le cinéma d'animation tchèque permet au 8e art de se trouver un nouvel espace cinématographique. Les marionnettes de Jiří Trnka ou les acteurs effarés de Karel Zeman s'inscrivant dans des gravures sur bois illustrant Jules Verne témoignent de la verve épique et de l'invention des cinéastes tchèques. Collaboratrice de Trnka et historienne du cinéma d'animation, Maria Berešová décela très tôt le talent de la plupart des maîtres actuels de l'animation. Maria Berešová.
Si vous parlerez avec quelqu'un jeune, alors il vous dit que Trnka était très 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 bien, mais maintenant c'est un peu démodé. Pour eux, est Trnka un très bon classique, mais en ce moment il est un peu démodé. Mais moi, personnellement, je pense que ça va durer, disons, pas même une génération. Ça va durer 5 ans, et puis on trouvera, on va lier de nouveau.
On redécouvrira Trnka, on lui trouvera des qualités, etc.
Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Ça sera plutôt sa philosophie, pas sa technique. Bien sûr, la technique se développe très, très, très vite.
L'intérêt actuel des jeunes cinéastes d'animation se porte plutôt vers l'école de Schwenkmayr. C'est plutôt cette école qui est actuellement la plus présente dans les recherches, aussi bien les recherches...
Mais vous savez, je pense que c'est plus large que chez nous, parce qu'en ce moment, le film d'animation n'est pas tellement spécialisé, n'est pas tellement autre que le film de fiction. Mm-hmm. Quand je parlais avec Schwenkmayr, pour lui, c'est film. Et maintenant, il s'exprime par toutes les techniques, il s'exprime dans ce domaine. Bien sûr, chez Schwenkmayr, c'est un peu autre. Pour lui, la marionnette, c'est un symbole, parce que pour lui, c'est plutôt pas la marionnette de cinéma, mais plutôt marionnette du théâtre. Et il utilise beaucoup, beaucoup les marionnettes. Et puis, il estime beaucoup l'animation parce que c'est un mouvement que on peut inventer, aussi la technologie du mouvement, aussi l'expression du mouvement et tout ce qu'il veut dire par le mouvement.
Maria Berešová, est-ce que vous êtes dérouté par les effets spéciaux ou est-ce que c'est un domaine que vous voulez explorer?
Moi, je m'intéresse des effets spéciaux, mais vous savez, je ne comprends pas la technologie. C'est toujours plutôt ce que je vois. Alors, je veux expliquer pour moi comment ça s'est fait. Mais je pense que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas important comment on le fait. Mais ce qui est important, comment réagit le public, quel sentiment évoque l'image et tout ça.
Est-ce que le cinéma d'animation tchèque est toujours une part importante de la production cinématographique actuellement?
Il y a des personnalités avec lesquelles on compte. Schwenkmayer, par exemple. Barta, mais Barta, avec Barta, c'est difficile parce qu'il n'a pas assez d'argent pour Golem. Il va faire Golem, j'ai vu les rushs. Ça va être quelque chose d'extraordinaire avec des effets très 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 bien pensés de point de vue artistique, très bien fait, mais il n'a pas d'argent en ce moment. Il attend déjà 7 ans, c'est beaucoup. Et pour notre cinématographie, bon, c'est plutôt toujours le passé. Parce que, vous savez, dans les années 50, si on a parlé de films tchèques, on a tout de suite pensé à Trenka Zeman, Tirlova Poyar et à ses personnalités, parce que à tous les festivals, on a projeté ces films, les films. Bien sûr, ces films avaient obtenu des prix. Et d'autre part, les gouvernements tchèques ou le parti communiste a laissé travailler Trnka parce que pour eux, c'était aussi une certaine publicité. On a dit, mais vous voyez ce film communistes oui, dans le pays communiste, ils ont tant de liberté, ils peuvent, parce que ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, ils ont donné l'argent pour ces films, parce que c'était notre publicité culturelle.
Est-ce qu'un réalisateur comme Schwenkmayer connaît un réel succès en République tchèque?
Alors, surtout chez les étudiants maintenant. Et puis, vous savez, c'est drôle, c'est plus qu'un film de marionnette, plus qu'un film d'animation qui est toujours jugé comme un film pour enfants. Alors, pour eux, c'est plus profond. Et puis, comme tout le monde se pose la question comment on le fait, alors c'est toujours très, très, très... Oui.
Et vous l'avez vu travailler, comment travaille-t-il?
C'est extrêmement secret. Alors, je n'ai pas vu comment il travaille directement, mais... J'étais dans son atelier, c'est à Prague, c'était une pièce où c'est pour 3-4 personnes, s'il viendra une personne en plus, alors une devait sortir. Mais maintenant, il a un plus grand atelier, un peu éloigné de Prague. Très peu de gens travaillent à ses films. Sa femme, Eva, elle est peintre, elle est artiste. Lui, puis 2-3 animateurs. Un très 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 bon caméraman.
C'est une équipe très réduite, comme une petite compagnie théâtrale.
Oui, c'est ça.
Táhněte do háje, všichni pryč. Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žrát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid. Dala mi najevo, že mě nechce mít. Zbytej a špinavej, tancuju sám. Váš pohled káravej, už dávno znám. Pořád je na kolena...
Antonin Limo, dès 1959, on peut dire que la fameuse nouvelle vague tchèque a commencé à poindre son nez, parce qu'un film donc de Vojtěch Jasný, comme Un jour un chat, a un petit peu servi de déclic.
Ce qui se passe dans les années 50, c'est trois générations de cinéastes tchèques, pour la première fois dans leur vie, commencent à pouvoir faire ce qu'ils peuvent. Ils ont une industrie, ils ont une maison de production, qui est une maison de production d'État, mais d'un État bien affaibli, dont le contrôle idéologique s'assouplit, devient beaucoup plus hésitant, et à ce moment-là, tout le monde en profite. Et c'est la seule explication, si vous ne vous en souvenez pas, mais dans les années 60, le cinéma tchèque récolte des premiers prix pendant 10 ans dans tous les festivals du monde. Ce n'est pas possible que ce soit uniquement le fait d'une seule génération de cinéastes. Il y avait au moins, à cette époque-là, il y avait, par rapport à la Hongrie ou à la Pologne, il y avait au moins 20 réalisateurs de réputation mondiale à Prague. Il y a certains qui avaient presque 60 ans. C'était la première génération des années 30. Il y en avait qui avaient 40 ans, qui c'était la seconde génération de 48. Et il y avait la troisième génération, qu'on appelait la jeune vague, qui, ensemble, avec des styles différents, avec des... vous savez, le premier grand succès, par exemple, du cinéma tchèque, c'était un film de Kadar et Klos, qui était de la génération intermédiaire, qui s'appelait à Cannes Miroir aux Alouettes, autrement on le connaît plutôt comme Le Magasin dans la Grande Rue. C'était dans les années 50. Et c'était une génération qui n'était pas du tout l'avant-garde. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple même l'ancienne génération, un Otakar Vavra ou un Mac Fritsch, qui avait à ce moment-là, donc, mon Dieu, presque 60 ans, quelque chose comme ça, ils ont eu un renouveau, et sous la pression de la situation des jeunes dont ils étaient les professeurs à l'Académie de cinéma, ils ont fait leur meilleur film. Vavra a fait ses meilleurs films dans cette période-là, ses deux meilleurs films. Justement, il a fait des films staliniens, épouvantables, etc., des réalismes socialistes. Et après, il a repris le souffle. Et sous la pression de jeunes, il a fait deux films qui sont remarquablement intéressants. Alors, vous avez là, donc, cette foule, si vous voulez, qui... pas seulement entre dans le cinéma, mais qui s'empare du cinéma tchèque, si vous voulez, et profite de l'assouplissement du contrôle idéologique, de contrôle, de censure, et finalement, tous ensemble, créent ce qu'on appelait le miracle du cinéma tchèque, le tchécoslovaque.
Le premier printemps de Prague.
Et ça a commencé par un film slovaque, pas par le film de Jasny, mais par un film qui s'appelle Le Soleil dans le filet, qui était un film de Stefan Uher, qui était interdit en Slovaquie, auquel les critiques tchèques ont fait une première représentation solennelle à Prague, et c'était le déclic. Et ça a commencé, et ça nous sommes en 1955, en 58, l'État, le Parti communiste, a essayé de reprendre tout ça en main. En 58, ils ont convoqué une conférence où les têtes ont tombé, etc. Mais ça n'a rien aidé. Ça, au bout d'une année, ça a recommencé, et ça a duré jusqu'à 69.
Interactualité matin.
Au micro, Michel Forgit,
Roger Jiquel,
Jacques Rousseau.
Tout de suite, un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague. Apparemment, ils ont été débarqués par avion, car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars encerclent le bâtiment où est réuni le comité central du Parti communiste tchèque.
Comment on l'a bien dit ?
Donc, coup de force en Europe de l'Est.
Mám stoletý příborník, šáky v něm se mě ptají, kam zmizel můj nápadník, kam a kde ho teď mají.
Alors, vous étiez donc à Prague, vous étiez critique de cinéma, mais en même temps, vous aviez une part un peu active dans la création de tous ces films. Alors, Quels étaient aussi les rapports entre ces cinéastes et le pouvoir? Jouaient-ils au jeu du chat et de la souris? Se conduisaient-ils comme des guérilleros? Quelle était l'ambiance à Prague?
Est-ce qu'un cinéaste jamais libre de faire ce qu'il veut? En Amérique, en France ou ailleurs? Non. Il dépend de l'argent, du producteur, etc. Si le producteur est l'État, le contrôle est surtout idéologique, l'argent ne joue pas un tel rôle. Si le producteur est privé, ce n'est pas l'idéologie, vous pouvez tourner Marx à Hollywood sans aucun problème, si ça rapporte de l'argent. On s'est bagarré, rien n'était assuré, mais on pouvait lutter, on pouvait se bagarrer, et il y avait une chance de réussite. On n'a pas gagné toutes les batailles. Il y avait des films qui étaient interdits, ou même pas, sinon interdits, au moins pas distribués, ou distribués mal, etc. Il y avait plein de problèmes. Mais c'est la vie. Mais la vie était possible. C'est pas le gouvernement ou le Parti communiste qui était ravi que des films anticommunistes étaient tournés à cette époque-là. Mais il ne l'a pas empêché, au bout d'une certaine lutte, qui était naturellement aussi en jeu, etc. Tout était jeu avec le pouvoir, c'est toujours ça. Alors, la chose importante qui est arrivée à la fin des années 50, au milieu des années 50, c'est le changement de structure de la production. Les grands studios, le cinéma d'État, la grande production de cinéma de fiction, étaient décentralisés. À l'intérieur du studio existaient 6 groupe de production, c'est-à-dire 6 compagnies de production, si vous voulez, avec leur budget, etc., et avec leur propre noyau artistique, intellectuel, tout ce que vous voulez. Et cette décentralisation, cette indépendance, cette autonomie de ces groupes de production était le chemin vers cette diversification de production où les jeunes, les moins jeunes et les vieux collaboraient ensemble, coopéraient ensemble pour faire de Cinéma Tchèque ce qu'il est devenu.
Alors vous-même, vous travaillez dans un de ces groupes de production.
Je travaillais dans un de ces groupes qui a produit les premiers films de Miloš Forman, tous les films tchèques de Miloš Forman, le film de Ivan Passer, etc. On voyait qu'il avait beaucoup de talent et on l'a aidé à faire un premier film court-métrage qui était un tournage presque documentaire. Et à partir de ça, il, avec son collaborateur scénariste, etc., dont Passer était un autre, il nous a apporté une première mouture d'un film qui s'appelait As de Pique. On l'a aussi aidé de faire un autre court-métrage afin que le premier puisse être joint à un autre pour qu'il puisse être projeté ensemble dans les salles. C'était aussi le début de Viera Kikilova. Pas un long-métrage, mais 2 courts-métrages qui étaient jumelés. Et c'est comme ça que ça se faisait.
Dans les années 60, on les appelait les Don Quichotte tchèques. Ces jeunes rebelles se battaient contre les moulins à vent du dogmatisme. Ils avaient décidé de distinguer clairement la vérité du mensonge et de défendre la vérité, même au prix de leur vie. Ils rêvaient d'un autre cinéma, ils rêvaient, et ils ont vécu leur rêve l'espace d'un instant. Le café Slavia dans la soirée du 16 janvier 1998. On fait la fête à Miloš Forman.
Dans les années 60, nous avons beaucoup appris. Au discours historique de Khrouchtchev a succédé un relâchement de la pression militaire. On pouvait tout dire, même la vérité, mais indirectement. Il a fallu apprendre à dire la vérité de façon détournée, ce qui n'est pas un exercice inutile pour un réalisateur ou un auteur. Le spectateur ou le lecteur était obligé de se creuser les méninges pour trouver le sens, mais c'était aussi un amusement. Eh oui, les années 60 nous ont beaucoup appris.
Quels souvenirs gardes-tu de ces années ?
Des souvenirs agréables. On avait environ 30 ans. À cet âge, on ne se rend pas compte de l'horreur qui frappe l'homme au moment où il réalise qu'il ne peut ou ne pourra plus travailler, que ses forces l'abandonnent. On ne se rendait pas encore compte de la barbarie de ce système. De plus, nous étions un groupe de bons amis. C'était bien, parce que chacun faisait des films différents. Il n'y avait pas de concurrence ni de jalousie. Chytilova faisait d'autres films que Nemec, Nemec en faisait d'autres que Passer, Passer d'autres que Jiřes, Evald Čorn, Pavel Juráček, etc. C'est ce qui faisait le charme de ces films. Qu'est-ce qui caractérise le phénomène de la nouvelle vague? Peut-être son côté unique, je ne sais pas. Ou peut-être encore cette image. Jusqu'aux années 60, les portes du studio Barrandov nous étaient fermées. Devant ces portes, une troupe de jeunes gens attendait. Lorsqu'elles se sont ouvertes, une quinzaine de nouveaux jeunes réalisateurs ont envahi le terrain en l'espace de 2 ans. Surveiller 2 ou 3 personnes, c'est facile. Mais surveiller 15 fous, ce n'était pas une mince affaire, même pour les communistes.
Já nejvíc píšu, když nepíšu. To je, když se procházím, když chodím, když vedu ten můj vnitřní monolog, když vadím do sebe všechno to, co jsem nejen slyšel.
Lorsque l'on regarde justement les génériques de ces films, on s'aperçoit qu'il y avait des noms importants. Bon, Kundera pour La plaisanterie de Jérôme Jiřes, Rabal pour un grand nombre de films de Jerry Menzel et d'autres. En même temps, il y avait un film comme Les petites perles au fond de l'eau qui a été une sorte de manifeste un petit peu de toute la nouvelle vague.
C'était la nouvelle de Rabal. Bien sûr, vous savez, Prague est une petite ville qui a 1 million d'habitants et sur 3 km², sur le plan culturel, tout se passe. Les cinéastes, les hommes de théâtre, les artistes, les écrivains, tout le monde se rencontre, les musiciens, tout le monde se rencontre tout le temps. Et cette atmosphère qui, après les années staliniennes, finalement, cette atmosphère de, je dirais pas liberté, mais enfin, cette situation, on pouvait de nouveau commencer à respirer, créer une atmosphère absolument unique et, à mon avis, assez singulière et absolument inoubliable. Milan Kundera dit toujours, et je crois que je suis 100% d'accord avec lui, que ce qui s'est passé dans la culture tchèque dans les années 60, c'est un des meilleurs moments de la culture européenne dans ce siècle. Des choses pareilles ne peuvent pas se prévoir. C'est arrivé à cause des raisons historiques, l'évolution du temps, etc. Et finalement, ça a explosé.
Tobě to ale sluší.
Tobě to taky sluší, Mášenko.
Jerry Menzel, un regard sur sa carrière, c'est toujours un peu difficile, mais on peut peut-être revenir à l'époque des premiers films et puis voir le chemin effectué. C'est un regard plutôt positif ou c'est un regard critique?
Alors, je crois, je sais pas si c'est critique ou positif, mais je crois que c'était un peu gay parce que ma carrière a commencé très vite, elle monte très vite parce que quelques années après mes études, j'ai reçu Oscar, après mon premier film, mon métrage.
Et, vous pouvez rappeler le titre ?
Le train étroitement surveillé. Après, j'ai reçu de grands prix ici à Festival à Karlovy pour l'été capricieux. Après, ils sont venus le chariot russe. Et après, j'ai fait un autre film qui était arrêté pour 20 années. Plus tard, il a gagné la Grand Prix à Berlin.
Berlin, Alouette sur un film.
Oui, l'Urs d'or. Mais avant, juste après l'occupation, je n'ai pas pu travailler à cause de les choses politiques qui se passent dans notre pays. Mais je pense que ce n'était pas seulement la question politique, mais c'était aussi question de rivalité de générations de metteurs en scène plus âgés que nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans 70? Il est venu le nouveau dirigeant à Film Studio et quelques metteurs en scène qui sont restés comme membres de parti, ils ont pris le pouvoir. Et leur premier devoir était jeter tous les...
Mettre à la porte.
Mettre à porte tous les bons réalisateurs comme Forman, Chytilová, toute ma génération, même comme Kadar, même comme Krejčík, tous qui sont bien. Alors, ils ne veulent que nous continuions dans le travail parce qu'ils veulent leur espace.
Pan Arnoštek je švárný chlapík. Všiml si z Antonína jeho rozpaku a jeho ruměnce, když mu major nabízel tak neomaleně jídlo.
Ano, je to zdatný člověk. Najedl se hojně a nezaplatil uzeniny ani vstupné.
On a un peu oublié qu'en dehors de la Genevard, vous citez Menzel, vous citez Forman, d'ailleurs le meilleur film de Forman, de loin le meilleur film de Forman fait en Tchécoslovaquie, c'était Offert les pompiers. Offert les pompiers était un de ces films qui était le victime de 67 à Cannes et qui n'a jamais eu de succès en France. Il était ressorti par le distributeur trois fois, et trois fois, c'était un flop. Par contre, par exemple, en Amérique, c'était un succès très respectable. Et ailleurs aussi, c'est très intéressant pourquoi ce film-là, qui est un film magnifique, Forman n'a jamais dans sa vie fait une chose meilleure, n'a jamais eu de succès ici. Almé, vous aviez, par exemple, on a un peu oublié, donc, Kadar et Klaus, c'est-à-dire la génération des quadragénaires, cinquagénaires, Magasin dans la Grande Rue et d'autres. On a un peu oublié Wojciech Jasny, vous avez mentionné Un jour en chat, mais on oublie un peu que plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 68, Jasny a eu le prix spécial du jury à Cannes pour La Chronique Morave, qui est le chef-d'œuvre de Jasny. Et Jasny aussi est une autre génération, et aussi une autre esthétique, et aussi un autre style. Vous avez par exemple Věra Chytilová, qui est une cinéaste extrêmement importante, dont le style est radicalement différent de Forman, Passer, Menzel. Et vous avez quelqu'un comme Ewald Schorm, qui était un cinéaste tout à fait de nouveau, c'était des films psychologiques, et c'était des films... comment dirais-je, d'une autre profondeur. Schorm, aujourd'hui, est mort. C'est très dommage, c'était un grand cinéaste. Une chose, par exemple, qui caractérisait beaucoup la jeune vague tchèque, c'était le travail avec les acteurs non professionnels. Non, c'était une des choses absolument essentielles. Forman, tout le monde, d'ailleurs, Chytilová, Schorm, tout le monde. Mais c'était vraiment une cinématographie pour un petit pays. C'était très étonnant. Et l'explication, de nouveau, je vous dis, c'était tout ce qui s'est accumulé pendant la période qui a commencé au début des années 30, a fini en 69.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v ruce třeba po kolena uzlík svůj zvlád, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co má.
La situation de cinématographie tchécoslovaque a tombé et ils ont présenté officiellement que la nouvelle vague était le mauvais temps pour la cinématographie tchécoslovaque, que c'était c'est la célébrité de nouvelle vague s'était fait artificiellement par des critiques bourgeoises, etc., etc., que le vrai développement, c'est la cinématographie socialistique, etc., etc. Mais le résultat, c'est que la cinématographie a tombé. Et très doucement, Bočan, Jireš, Chytilová, moi-même, nous avons pu rentrer dans, comme création, faire les films. Tout d'abord, faire les films, c'est-à-dire positif. Alors j'ai fait un film sur des ouvriers, sur la vie des ouvriers, pour montrer comment j'ai les relations positives à la classe des ouvriers. Et j'ai fait un film et c'était un peu bizarre parce que pendant le tournage, un des techniciens était sous et quand il était ivre, il a dit que le film, quand il sera fini, le film sera fermé et officiellement, ils veulent dire que le film est mal, mm-hmm. et que le film montre que ma relation à la classe ouvrière est très méchante. Mm-hmm. Heureusement, nous avons tourné le film dans un grand bâtiment d'une barrière. Et là, il y avait beaucoup d'ouvriers qui nous aiment. Et ils ont écrit les lettres que M. Menz a très bonne relation à collectif, à, etc., etc. Partout, à Parti communiste, à organisation de la jeunesse, dans les syndicats, dans le ministère de construction. Et partout, ils ont écrit les lettres pour dire que moi, je suis bien. Et grâce à ça, le film était bien, alors il n'est pas bien, mais pour ce temps, il était bien. Et grâce à ça, j'ai pu continuer.
Comment peut-on continuer à tourner donc, dans une période difficile comme celle-là? Bon, vous cherchiez des astuces, des façons de contourner le pouvoir, comment...
C'était comme ça. J'étais employé dans le film studio parce que d'après cette loi, personne n'a pas droit à me jeter.
Oui.
Ah ben, alors j'ai reçu mon salaire, très petit, mais... Et ils ont m'envoyé des scénarios très bêtes, toujours très bêtes. Et mes collègues à l'étranger, ils demandent moi de travailler en étranger, au théâtre ou bien des films. Et le film studio a toujours répondu, non, c'est pas possible parce que Menzel est occupé pour son prochain film. C'était
C'était la réponse traditionnelle.
Oui, oui. Mais c'était pas la vérité. J'ai reçu le scénario, mais ce sont toujours les scénarios qu'on ne peut jamais faire. Ce sont les blablabla. Finalement, parce que j'ai voulu faire quelque chose, j'ai rencontré des journalistes qui ont écrit un scénario blablabla. Et j'ai demandé, est-ce que vous voulez voir le film tourner d'après ce scénario? Et tous les deux ont dit, non, jamais. Alors, j'aime beaucoup cette sincérité.
Cette franchise, oui.
Cette franchise. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez réécrire? Ils sont d'accord. Et grâce à eux, et grâce à Zdeněk Svirák, qui nous a aidés, nous avons réécrit ce scénario. Et comme ça, j'ai pu faire ce film sur cette grande barrière.
Et en même temps, vous faisiez également des mises en scène au théâtre.
Non, c'est pas possible non plus. Mais plus tard, j'ai pu aussi travailler au théâtre. Et plus tard, d'après quand j'ai pu faire le film, j'ai pu aussi travailler au théâtre à l'étranger. Mais cette période se vivait très mal parce que l'État a de nouveau repris les rênes. L'État,
Antonin Lim,
très limité intellectuellement, et très peureux parce que il craignait que ce qui s'est passé dans les années 60 pouvait peut-être se reproduire. Alors vous savez que, par exemple, la censure, ou enfin ce qui égalait à la censure, c'est-à-dire la surveillance des studios, etc. La censure commençait déjà au travail quotidien. Il fallait veiller que même le style des films des années 60 ne pénètre pas dans la création des années 70. Le contenu, etc., c'était secondaire. Enfin, c'est pas secondaire, c'était primordial. Mais le style était surveillé. Tout était surveillé, de très près. Alors, il y en a certains qui ont émigré. Donc, uniquement Forman a eu du succès.
Passer aussi,
hein, Passen, je dirais comme ça. Passen a très bien et très honnêtement survécu. Mais Passen n'a jamais fait un meilleur film que son premier film et son dernier film. Parce que vous savez, Forman est arrivé en émigration après son quatrième long métrage. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà établi son style, son langage, etc. Son premier film américain qui n'était pas un très grand succès en Amérique, mais qui a un énorme succès en Europe, Taking Off, était quoi ? Était une synthèse des films tchèques de Forman. Les Américains ont bien su. Ils disent, voilà, c'est très joli, mais c'est pas américain. Et ils ont bien compris. Tandis que les Européens ont vu ça et dit, ah, c'est l'Amérique, ça, c'est très bien. Et, donc, il y en a qui ont émigré. Et il y en a qui sont restés. Tous, au début, ont été interdits de studio. Et après, progressivement, certains pouvaient rejoindre le studio à condition que, naturellement, ils abandonnent leur style, ils abandonnent leur écriture, et que, naturellement, ils ne provoquent pas, disons, sur le contenu, sur le style, etc., mais qu'ils amusent le public. C'est comme ça que Menzel a survécu, c'est comme ça que Hitilova a survécu, mais ils n'ont jamais fait un film qui serait comparable à ce qu'ils ont fait dans les années 60. Et quand finalement le régime a changé en 89, ils avaient déjà 60 ans.
Koufax. Koufax kicks. He delivers. It's up the middle, it's a base hit. Richardson is rounding first, he's going for second. The ball's in the deep right center. Davidson over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw, Richardson around and goes. He goes in for second, he slides, he's in there, he's safe. It's a double, he's in there, Martin. You look at Richardson, he's on second base. Kovacs is in big fucking trouble. Big trouble, baby. All right, here's Tresh as the next batter. Tresh looks in, Kovacs. Kovacs gets the signs from Roseboro. He kicks once.
Pendant cette 30 années, l'industrie du cinéma a continué, c'est-à-dire les ouvriers, les techniciens, toutes les professions sont continuées et sont développées dans sa qualité. Alors ils ont dans le niveau qu'on peut comparer avec tous les bons cinématographes dans tout le monde.
Il n'y a pas eu de rupture.
Il n'y a pas de rupture, très bien. Et grâce à ça, maintenant, il y a beaucoup de jeunes cinéastes, ils peuvent continuer à faire les films dans certaines qualités professionnelles. Question, c'est les raisons pour lesquelles ils veulent faire des films. Il y a beaucoup de films qui sont faits seulement pour vouloir d'être cinéaste. Et ça, je déteste.
Jerzy Plazewski.
Il ne faut pas s'imaginer ce développement postérieur et la chute du communisme comme un moment de, disons, du bonheur. Parce que on voit que quand on perd l'adversaire, ça doit transformer toute la cinématographie. Aussi bien les cinémas tchèques, les cinémas hongrois que les cinémas polonais, je dirais 90% de ce qu'on a fait de valable, c'était des choses peut-être parfois clandestinement ou par allusion, bien sûr, parce qu'il y avait la censure, mais c'était des choses contre le régime totalitaire, contre le manque de la liberté, contre la censure, etc. etc. Quand on a perdu cet adversaire, il fallait de nouveau déterminer le sujet principal.
Eva Zaouralova.
J'ai été très critique les premières années après novembre 89 parce que j'avais l'impression que c'était pas tellement le manque de moyens financiers, mais le manque d'inspiration. Tout le monde disait toujours « Ah, si je pouvais parler en liberté, si je n'étais pas limité par la censure. » Puis la censure est tombée, la liberté était là, et ils ne savaient pas de quoi parler. Et ils cherchaient des sujets très bizarres à l'extrême, ils cherchaient à plaire au public. Et à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que l'ancien cinéma, c'est-à-dire le cinéma de la nouvelle vague tchèque et slovaque, ne disait plus rien à ces nouvelles générations. Parce que après cette génération de 30 ans est sortie de la faculté une nouvelle génération qui, elle, a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'originalité, elle est beaucoup plus personnelle. Quand on voit par exemple le jeune Zelenka avec le film Les Boutonniers, que c'est un titre bizarre, mais le film tout entier est un peu comme ça. D'après moi, c'est un peu un mélange du Jarmusch Kaurismäki, mais très original, très, très tchèque d'ailleurs, avec beaucoup d'humour tchèque. Et alors c'est lui, c'est Sacha Guédéon, c'est peut-être Rebeik, c'est aussi un nouveau venu Marek, Pavel Marek, ou Svirak, qui est déjà connu et qui a déjà remporté un Oscar. Et donc, depuis 2 ou 3 ans, il y a aussi un autre nouveau, c'est pas seulement Rensch, mais un autre, Oscar Reif, qui a fait le film qui est choisi pour la semaine de la critique à Cannes. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais de toute façon, on peut trouver déjà quelque chose d'intéressant et quelque chose de nouveau.
En Tchécoslovaquie, la démocratie fait une entrée remarquée. Václav Havel, favori pour l'élection présidentielle, parle à la télévision. Les Tchèques voient également sa tête un peu partout sur les murs des villes. Et pendant ce temps, on casse le rideau de fer. Les soldats tchécoslovaques vont commencer à s'en prendre au grillage. Ils vont le détruire sur 65 km.
Après la chute du communisme, tout ce qui était État, argent public, etc., c'était du diable. Alors, il fallait dénationaliser, privatiser tout. Et naturellement, et les cinéastes étaient pauvres, il faut dire. Et je me souviens de mes premières discussions avec eux, où je leur dis, soyez prudents, qui va produire, qui va financer, comment ça va se faire? Et ils ne voulaient rien entendre, parce que nous produirons nous-mêmes, on fera des petites sociétés, etc. Ils ne comprenaient pas que pour un petit film, un petit pays, c'est presque impossible. Je leur ai dit, associez-vous à la télévision. Ah non, la télévision, on ne veut pas du tout voir, etc. Maintenant, naturellement, c'est par la télé uniquement que vous pouvez faire des choses, d'ailleurs, même ici, etc. Et dans ce schéma, naturellement, on sautait les gens les plus débrouillards, qui ne voyait dans la privatisation de la cinématographie tchèque, des studios tchèques, uniquement une possibilité de gagner beaucoup d'argent. De louer finalement aux Américains, de faire des, pas seulement des coproductions, même de louer tout simplement les studios, etc. Mais il s'est trouvé que ça n'a pas marché, parce que l'Europe et l'Amérique a d'autres possibilités de tourner que dans les studios qui, à cette époque-là, étaient déjà vétustes, etc., et en même temps chers. Alors, finalement, le bilan est assez désastreux. Les studios sont banqueroutes, l'argent est disparu, tout a disparu dans l'air, et il y a une production qui se fait, comme on dit, sur le genou, et dans un petit pays, même en film, le plus populiste possible, le plus vulgaire possible, ne gagne pas le coût de la production. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je dis toujours que dans les petits pays, le studio système n'a pas été inventé en Union soviétique. Le studio système est une invention hollywoodienne. Et pour les petits pays, un studio système décentralisé, etc., avec l'argent public, si vous voulez, partagé entre la télévision et le cinéma, etc., est peut-être la seule possibilité de maintenir en vie une culture cinématographique. Vous pouvez toujours, les films se font, mais vous préférez, moi je préfère ne pas les voir. Et il n'y a pas de vraies unités de production avec des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent aider les jeunes cinémastes, qui pourront leur dire, écoutez, le scénario n'est pas bon, il faut travailler, etc. Ça n'existe pas. Finalement, si vous ramassez un peu d'argent, vous pouvez finalement faire tout, tourner tout ce que vous voulez.
Přátelé, cítím ve vzduchu břitvu.
Ale pěkně ostro.
Jean-Louis Manceau.
Les gens de l'ancienne nouvelle vague, comme Menzel, comme Kitilova, comme Iresh et autres, quand je vois leurs films maintenant, je trouve que d'abord, ils ratent leur sujet, ils ont des scénarios qui ne sont pas très bien travaillés ou qui n'ont pas une unité de ton et de développement cohérente. Ils ont tendance à faire des digressions. Et puis, peut-être au fond qu'avant, quand ils subissaient des pressions, il y avait une volonté de résistance. Et que maintenant, le fait qu'ils se sentent libres et que la seule pression, c'est la pression de l'argent, fait qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur propre écriture. L'exemple le plus typique, d'ailleurs, dans les cinéastes, je dirais que c'est presque Yann Nemetz. Car Yann Nemetz a fait des films extrêmement forts jusqu'au moment où il a été interdit en 68, et il n'a pratiquement plus tourné pendant 22 ou 23 ans, si ce n'est pour la télévision allemande. Et puis, depuis qu'il est ici, il essaie de tourner, et là, ces obstacles sont vraiment des obstacles de scénario et de moyens financiers. Il a les moyens financiers pour faire ce qu'il veut, mais en fait, il n'arrive pas à écrire quelque chose auquel il donne une dimension cohérente. En fait, ceux qui sont restés découvrent la liberté, et ceux qui sont partis, c'était le cas de Nemetz, eh bien, ne retrouvent plus leur inspiration antérieure. Ils ont subi des influences qu'ils ne maîtrisent pas complètement, et puis ils ont tendance à aller vers vers le sujet de télévision, quoi, presque à la limite. Parce que quand dans un sujet de télévision on leur dit en 52 minutes il faut raconter une histoire, fut-elle l'histoire de Derrick, pour prendre l'exemple germanique, puisqu'il y a beaucoup des séquences de Derrick qui ont été tournées par des cinéastes tchèques en exil, eh bien, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce moule dans lequel on les a mis.
Vera Kitilova.
On pense que si je proteste contre cette situation, que je suis vie, ma situation, ce n'est pas vrai. Je peux me trouver l'argent à cause de mon nom, de mes films, à cause de ça que je suis vieille. Alors, je peux trouver l'argent ou non. Mais ça dépend de projet, ça dépend de travail, de la confiance. Mais généralement, ce n'est pas en ordre.
Oui, c'est ça, espoir pour la nouvelle génération aussi. Mais les jeunes gens dans ce moment étaient non, nous voulons être libres, non, aucune. Oui, alors, et après, maintenant, c'est anarchie, c'est chaos, sans l'argent, on doit faire qu'est-ce que le producteur veut, non, le producteur, mais l'homme qui a l'argent. Et on fait seulement tout pour matériel, pour l'argent, rien pour l'esprit. Et c'est la situation.
Vera Sutilova, lorsque vous parlez avec vos étudiants donc, de la FAMU, de votre travail, de vos films, et puis également de ce que vous attendez dans leur propre travail, qu'est-ce que vous leur dites ?
Je pense que étudier la création, c'est très difficile, c'est presque non-sens. Oui, beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas étudier. Mais vous pouvez seulement leur donner votre expérience, votre opinion. Vous pouvez essayer d'analyser les choses, pourquoi elles sont comme elles sont. Oui, par exemple, mes films. Parce que je suis aussi l'auteur, pas seulement réalisateur. Alors, je peux leur dire aussi tous les dangers pendant la réalisation et les changements après le montage et comme ça. Et le changement, comment on se change pendant toute cette création de scénario jusqu'à la fin du film. Et comment on change aussi opinion, comment on étudie aussi de son propre travail.
Extraordinaire.
Elles sont pas toutes pour toi.
Eva Zaharova. Le public semble marquer une nouvelle phase dans l'évolution de la soif de films.
En effet, parce que tout de suite après la libération de la censure, les gens qui avant voyaient seulement les films soviétiques, les films hongrois, les films polonais, avaient une soif de voir les films américains. Maintenant, alors, c'est une nouvelle génération, celle qui pratiquement avait 6 ans au moment du novembre 89. Et ces jeunes gens, ils n'ont plus aucune idée du socialisme. Et au contraire, ils veulent voir ce qui se passe dans ces pays-là. Il aime le cinéma indépendant américain, mais le cinéma indépendant des autres pays aussi. Ils sont des cinéphiles, ce sont des étudiants de la République tout entière. Donc, on assiste peut-être à un changement de goût et à une nouvelle orientation culturelle, ce qui est très bien parce que c'est pratiquement orienté contre la société de consommation. Et c'est vrai que c'est les mêmes jeunes gens mangent peut-être à McDonald's. Mais en même temps, ils aiment voir les nouveaux films russes, les nouveaux films hongrois, le cinéma polonais. Ils sont très ouverts, par exemple, au cinéma indépendant américain, mais beaucoup moins au cinéma indépendant français ou italien. Ma génération était orientée plus vers la culture française, tandis que la jeune génération, aujourd'hui, ils s'orientent beaucoup au cinéma anglophone.
Au revoir, papa.
Au revoir.
Quand tu viendras nous chercher, papa?
Jerzy Plazewski.
si vous connaissez des films comme Kola, par exemple, de Svirak, c'est un cinéma ouvert vers les hommes, peut-être même beaucoup plus que les films dans les pays prospères, qui perd un peu l'homme et le bonheur de l'homme de la vue. Par exemple, pour le cinéma américain, pour le cinéma français, ça signifie avant tout que le sujet soit original, pas encore vu.
Mais est-ce que vous estimez que les films de Svirak, par exemple, sont aussi forts, aussi cinématographiquement importants que ceux de la nouvelle vague tchèque ?
Je crois que beaucoup plus dans le cinéma tchèque que, par exemple, dans le cinéma français, on voit cette continuité. Bien sûr, le temps est changé et le régime n'est plus là. C'est lui qu'on devait combattre. Mais ce qui fait la trace la plus caractéristique du cinéma tchèque, c'est cette observation détaillée de l'homme tout simple, pas exceptionnel, de tous les jours, un homme de la rue, Kola, qui est un bon exemple, ne montre donc rien d'exceptionnel. Mais la manière dont s'est traitée cette histoire l'a fait émouvante, l'a fait touchante, et j'aimerais que les metteurs en scène polonais, à part leur avantage dans d'autres domaines, auraient la même, disons, volonté d'observer de tellement près l'homme ordinaire.
Posłuchajcie si. Co ste dnes spravili? Nic? Co žijete? Dorábanie chleba je boží dar.
Quels sont vos espoirs autour du cinéma aujourd'hui, Jerry Menzel?
Aucune. La situation est pas centralisée. Chacun bataille pour soi-même. Et ça, c'est une grande faute. Malheureusement, malgré qu'il y a une école pour les scénaristes professionnels, il n'y a pas de scénaristes professionnels dans ce pays, malheureusement pas. Sauf M. Svirak. Pour moi, je m'occupe du théâtre, je suis satisfait en théâtre. Je n'ai pas assez courage de faire des films.
Jean-Louis Manceau. Mais on pourrait dire que dans la création tchèque et slovaque maintenant, la jeune création, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est réellement une tendance d'auteur personnel, et on le voit nettement avec des gens comme Martin Šulík en Slovaquie, où il part de sujets qui lui sont propres, qui font souvent allusion à des éléments de sa vie personnelle, et il les traite avec une tendresse et une poésie qui est assez intéressante et assez séduisante. Et puis il y a un autre comportement dans les jeunes cinéastes qui est l'imitation du cinéma hollywoodien, et enfin du cinéma américain ou du cinéma dit commercial. Mais c'est une tendance qu'on a vue se développer dans tous les pays d'Europe centrale et orientale. Alors dans l'un des plus manifestes réalisateurs de cette tendance-là, c'est le réalisateur de Kolia et de L'école élémentaire. Alors ça, c'est deux films qui ont encore leurs racines dans le cinéma tchèque, puisque c'est des films de Jan Svirak, et c'est le fils donc de Zdeněk Svirak qui était l'un des inspirateurs de Jerry Menzel, et notamment son scénariste sur deux ou trois films. Et Jan Svirak a montré dans ces deux films-là un certain nombre de retranscriptions des racines et de l'histoire. Mais néanmoins, c'est quand même assez roublard, assez complaisant, et ça veut vraiment, je dirais presque que c'est, il y a certains aspects démagogiques pour toucher le public à la fois tchèque et puis aussi intéresser ou séduire le public international. C'est pas tout à fait un hasard si Kolia a eu l'Oscar du meilleur film à Hollywood, quoi, du meilleur film étranger. Et puis, dans les autres films alors de Jan Zverak, c'est clair, là, l'imitation est absolument évidente. C'est des films comme Accumulator, qui sont des films de pseudo-science-fiction, ou alors c'est La Virée, qui est un film qui est une imitation des road movies américains, avec histoire policière et mort. Bon, et puis pression, assassinat, etc. Et donc, bon, je veux dire que ce cinéma-là est un peu un cinéma de mode, et je pense pas qu'il fera réellement carrière à Hollywood, Jan Zverak, et c'est ce qu'il veut d'ailleurs, et puis c'est aussi ce que pense Miloš Forman et ce que pense Jerzy Menzel. Forman a dit que Jan Zverak, pour lui, c'était un des grands espoirs du cinéma, en ce qui concernait le cinéma commercial, mais il le dit bien en ce qui concerne le cinéma commercial. Alors, chez les jeunes aussi, il y a quand même quelques jeunes qui font du cinéma d'auteur, notamment le réalisateur qui a fait le film Marianne, qui est sorti en France, qui est un film sur un gitan. C'est une œuvre tout à fait personnelle. Le réalisateur s'appelle Pat Vaclev. Dans sa tête, dans sa vie et dans ses rapports, parce qu'il avait continué à avoir des rapports réguliers avec les Tziganes, c'était quelque chose qu'il vivait presque au quotidien. Et donc, c'est vraiment une expression personnelle sur ce sujet-là. Et il y a d'autres cinéastes qui commencent à apparaître depuis 1991-92, et qui montre qu'il y a peut-être un nouvel espoir et une nouvelle vague.
Kovács. Co tady zase děláte?
Se volala Kovács.
Prosím vás, nechte to, seberte se, vypadněte odsaď už. Už jste tady byl, seberte se, zítra jdete do práce, zdraví jste a už jděte. A vy jste kdo teda?
Ludvík Kovács.
A kdy jste se narodil?
Ulice na Straně.
Už vás to mě nezajímá, kde nebo jste se narodil?
1970.
Tak pojďte rovnitř. Tady
Kováčku, dneska jděte
rovnitř. Počkejte. Antonin Lim.
Je crois que dans un petit pays, on ne peut pas penser, imaginer qu'un cinéma commercial, purement commercial, puisse survivre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, un peu la télévision a déjà compris ça. L'État tchèque s'est complètement distancé du cinéma tchèque, de la culture tchèque en général. Maintenant, ça change un tout petit peu aussi, mais ça a duré 10 ans. Et ces 10 ans n'ont pas vraiment laissé de traces dans la production cinéma, des traces qui seraient importantes ou dignes de ce passé dont on a parlé. Il y a naturellement des talents, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce qui manque, c'est ce cadre-là à l'intérieur duquel ce talent va s'épanouir. Je vous ai dit, quand on a pour la première fois rencontré Forman, nous étions quelques-uns qui ont pris par la main lentement, l'avons aidé. Ce n'est pas, nous ne lui avons pas donné des idées, c'est lui qui avait des idées. Mais nous l'avons lentement aidé, lentement, pas à pas, etc. Comme vous pouvez, un artiste, surtout dans les cinémas, c'est très fragile. Il faut vraiment le choyer et tout. Et ça, c'est arrivé avec Forman. Sans cette aide-là qu'il a eue, sans cet entourage qu'il entourait d'amis et tout, il aurait difficilement fait être devenu ce qu'il est devenu. Forman est le seul, avec Fritz Lang, des Européens non anglo-saxons, qui a réussi à Hollywood. Vous n'en connaissez pas d'autres. Et c'est pas seulement Forman, tous les autres. Et je crois que c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Ce respect pour la culture cinématographique, ce respect pour l'art cinématographique, et aussi ce respect de la société représentée par ceux qui donnent l'argent et qui subventionnent pour cette partie extrêmement importante de la culture tchèque. Et maintenant, naturellement, le trou qui s'est fait, vous savez, il y avait 20 ans, entre 69 et 89, où les dégâts étaient énormes. Vous y ajoutez les 10 années de dégâts qui ont été causés par une idéologie complètement opposée. Vous avez déjà 30 ans. Comment ça va redémarrer et quand ça va redémarrer et dans quel cadre ça va redémarrer, je n'en sais rien.
La partition Tchéquie-Slovaquie, l'arrivée massive de capitaux étrangers et les priorités de l'économie libérale ont sans doute faussé la trajectoire future du cinéma tchèque. La solidarité et la dynamique de cinéastes pourfendeurs d'un régime essoufflé ne sont plus aujourd'hui qu'un épisode lumineux de l'histoire du Bloc de l'Est. Héritier d'une tradition littéraire et théâtrale, jouant sur le grotesque, refusant la nostalgie passive, les cinéastes tchèques savent que de chaque côté de l'Atlantique, chacun prête un œil amical aux vérités et sautes d'humeur qui peuvent encore jaillir au printemps sur les écrans de Prague.
Wolfie. Wolfie. Wolfie.
Ciné Club, les printemps du cinéma tchèque, avec Maria Berešová, Vera Kitilova, Eva Zahoralova, Antonin Lim, Jerzy Plazewski, Yiri Menzel, Milos Forman, Jean-Louis Manceau. Extrait des films Amadeus, Au feu les pompiers, Les petites perles du fond, Train étroitement surveillé, Un été capricieux, Les amours d'une blonde, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Détective, Colia, Le Jardin, Accumulator, Marianne. Archives INA et Arte. Texte lu par Anna de Carvalho. Mixage Christian Keller, Pierre Mine. Réalisation Marie-Ange Garandeau. Ciné-club Patrick Casals.
Cette émission a été diffusée la première fois le 25 novembre 1998 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Androbala metuba tuke medava Gondolina va Chaye Kamaftu Leliruja Tukeda Androbala Metova Medava
Ciao. Ciao.